Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Diane Kasongo, elle est journaliste et elle est directrice des informations à la radio-télévision Nyota émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Bonjour Madame Diane Kasongo. Voilà, la réalisation m'a dit qu'elle n'est pas encore là. En ligne toujours, nous avons Jean-Claude Katende, il est membre de la société civile, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonjour maître Jean-Claude Katende.
Bonjour monsieur Guy Martin.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Espoir. Bonjour madame Colette Blackman.
Bonjour.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Diane Kasongo, journaliste et directrice des informations à la radio-télévision Nyota, émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Elle n'est pas encore là, elle va nous rejoindre. Maître Jean-Claude Katende, membre de la société civile, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Le Soir. Au menu de cette émission, Vital Kamerhe, élu candidat unique de l'Union Sacrée au poste de président de l'Assemblée nationale. 24 avril 1990, 24 avril 2024, cela fait exactement 34 ans que fait président Mobutu Sese Seko lancer les processus de démocratisation. 34 ans après, quel bilan peut-on dresser du processus démocratique en RDC? Et enfin, les Nations Unies et certains dirigeants occidentaux s'inquiètent de la persistance de la crise entre la RDC et le Rwanda. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet des élections des gouverneurs des provinces et des sénateurs. En effet, c'est depuis jeudi 25 avril 2024 qu'a débuté la campagne pour les élections des gouverneurs des provinces et des sénateurs sur toute l'étendue de la RDC. Les candidats ont jusque ce samedi à minuit pour convaincre les députés provinciaux. La campagne se déroule au sein des hémicycles des assemblées provinciales. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, souhaite que ces élections indirectes prévues le 29 avril se déroulent dans la transparence. Le président de la CENI demande aux députés provinciaux et aux candidats à ces scrutins de ne pas verser dans la corruption pour voter ou se faire élire. Maître Jean-Claude Katende, les députés sont appelés à voter de manière responsable ces jours-là, donc le lundi 29 avril. Mais à votre avis, comment cela pourrait-il se passer quand on sait que les tickets ont été décidés à partir de Kinshasa par les autorités morales et qu'il y a toutes ces pratiques de corruption qui sont dénoncées?
Merci Guy Maté pour la question. Je pense que si nous partons du passé, il est clair que les élections des gouverneurs comme des sénateurs dans le passé ont été émaillées de cas de corruption, des personnes qui ne répondaient pas aux aspirations de la base, mais qui ont été imposées par leur autorité morale, comme vous l'avez rappelé. Pour les élections qui vont intervenir le lundi prochain, je pense que les mêmes préoccupations demeurent. mais nous avons quand même des signaux encourageants. C'est le fait que le procureur général près la Cour de cassation ait lancé un appel pour que ces élections se passent sans corruption. Nous espérons vraiment qu'il a mis en place un mécanisme pour détecter des cas de corruption, et cela pourrait apporter vraiment un autre regard sur ces élections. Mais il y a aussi l'appel du président de la CENI, comme vous l'avez rappelé. Mais est-ce que tout cela est-il suffisant pour faire en sorte que les élections ne soient pas émaillées des corruptions, mais aussi qu'elles ne soient pas émaillées des cas d'opacité, en fait, de manque de transparence? Je crois qu'il est difficile de l'affirmer maintenant, mais nous pensons que par rapport aux élections de la législature passée, celles-ci vont être différentes. Mais au-delà de toutes ces questions, moi je reste toujours préoccupé par un certain nombre de faits. C'est notamment le fait que les sénateurs, par exemple, les candidats sénateurs, sont pour la plupart des hommes politiques qui ont été déjà élus, soit comme député national, soit comme député provincial. Et ces mêmes personnes, aujourd'hui, elles sont en compétition pour les élections sénatoriales. Je trouve quand même que c'est de la gourmandise exagérée de la part de ces hommes politiques. Et je me demande, même s'ils ont des suppléants, comment ils vont faire pour occuper tous ces postes. Il est donc clair pour moi qu'il faut supprimer cette pratique qui permet à une seule personne de briguer autant de postes dans les assemblées provinciales, nationales, mais aussi au niveau du Sénat. En dehors de ça, je pense qu'un autre fait préoccupant pour moi, c'est le fait de voir que on ne favorise pas l'émulation en fait de candidats indépendants. Et au sein même de certains regroupements politiques, vous voyez que les gens sont imposés au lieu de laisser, par exemple, les membres de ces partis politiques ou de ces regroupements politiques choisir qui pourrait être candidat gouverneur pour telle province ou pour telle autre. Ce qui fait que vous avez l'impression qu'il y a un peu du désordre dans le regroupement politique et principalement au sein de l'Union sacrée, qui est le regroupement le plus important aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tout compte fait, nous allons rester attentifs pour voir si les différentes recommandations qui ont été faites au niveau de la CENI, au niveau de la justice, mais aussi au niveau de certains regroupements politiques, vont être suivies pour que ces élections soient transparentes et surtout qu'elles ne soient pas émaillées par des cas de corruption ou des trafics d'influence.
Merci, Madame Diane Kasongo. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, Guy Maté. Bonjour à toi.
Bonjour, madame. On a eu du mal à vous avoir. On avait un problème avec nos lignes téléphoniques. Et donc, nous sommes en train d'émettre un commentaire au sujet, n'est-ce pas, des préparatifs des élections des sénateurs et des gouverneurs qui vont se dérouler lundi, le 29 avril, à travers tous les pays. Et avec cette campagne qui a commencé depuis jeudi dernier. Alors, la question, c'est que vaut cette campagne électorale quand on apprend que le ticket gagnant ont été décidés à partir de Kinshasa et que les députés provinciaux ne feront qu'avaliser, n'est-ce pas, les choix de leurs leaders politiques?
Merci Guy Maté. Je commence d'abord par saluer l'ensemble des auditeurs de la radio Capi et aussi les autres analystes qui ont commencé bien avant nous. Voilà, vous venez de les dire, malheureusement c'est ce qui se constate déjà en République démocratique du Congo. D'abord, si nous regardons ces élections, c'est des élections qui ont été reportées plus d'une fois pour des raisons financières et aussi logistiques que connaissait la Commission électorale nationale indépendante. C'est vrai, des candidats pointés par des regroupements politiques ou même de l'Union sacrée qui est déjà majoritaire au sein des institutions. Je vais prendre carrément le cas de la province où je vis, la province du Haut-Katanga. C'est-à-dire, nous avons des candidats de l'Union sacrée, nous avons des candidats indépendants, mais déjà, nous voyons que les candidats de l'Union sacrée partent favoris. Et nous voyons que ces élections du lundi prochain ne seront qu'une formalisation, voilà, de ce que nous savons déjà du côté de l'Union sacrée. J'ai entendu, quand je vous ai pris en cours, j'ai entendu quelqu'un dire
Maître
que
Katende,
ces élections... Maître Jean-Claude Katende qui disait que nous, malheureusement, c'est une habitude pour les élections du second degré. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a cette corruption, il y a le clientélisme que nous observons, il y a le trafic d'influence et d'autres antivaleurs qui, malheureusement, impliquent les députés, les honorables députés que nous avons élus. C'est vrai, il y a eu des garde-fous qui ont été mis. Voilà, est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce que la Commission électorale nationale indépendante prendra le soin de suivre toutes les recommandations qui ont été faites? Est-ce que la justice va dénicher ces cas de corruption? C'est ça le grand problème, Guy Maté. Au fait, nous n'allons assister qu'à cette installation des candidats de l'Union sacrée. Ça, c'est le cas de le dire, parce que ceux qui vont en indépendant ou ceux qui pensent, je ne pense pas qu'il y a encore des candidats de l'opposition, ceux qui vont en indépendant n'auront vraiment aucune chance de gagner les élections des gouverneurs.
Merci, Madame Colette Brakman. Le président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, demande aux députés provinciaux et aux candidats à ces scrutins de ne pas verser dans la corruption pour voter ou se faire élire. Vous pensez que la CENI a la capacité de décourager cette pratique de corruption qui est devenue dans ces pays comme une tradition?
Mais la CENI n'a pas pu empêcher la corruption lors des élections législatives du mois de décembre. On a vu les cas, donc si elle n'a pas pu les empêcher au départ à la source, je crains qu'elle soit un petit peu impuissante. Mais elle a raison de prévenir, elle a raison de mettre en garde, mais est-ce qu'elle a les moyens d'empêcher? Et alors on a quand même le sentiment, m'excuse, mais je vois ça depuis Bruxelles, qu'on assiste à une caste politique qui se reproduit, qui tourne un peu sur elle-même, quoi, qui choisit les gens dans son entourage. La politique devient un métier, c'est une caste, mais qui est de plus en plus loin de la population de base, aussi bien par les moyens dont elle dispose que par ses pratiques et ses priorités.
Merci, on prend une petite pause avec justement les traditions de Julio Iglesias et on revient juste après.
Les traditions qui nous enchaînaient nous ont fait vivre trop longtemps. Dans la grisaille quotidienne, avec les mots qu'on fait semblant d'entendre. Entrer chez soi les vagues à l'âme, ne pas vouloir d'une autre vie plus libre. Parce que l'on est mari et femme, qu'un papier nous interdit de vivre. On a pas qu'il se dit là-bas, il faut se quitter. Au grand poker des sentiments, on a trop bien triché. Les traditions qui nous enchaînaient nous ont forcé à refuser la chance. De dire enfin de vrai je t'aime, de chanter enfin de vrai commencer. Sous les reproches dissidences, sous nos regards indifférents, nous n'étions plus que des absences, marchant ensemble vers les temps de rire. On n'a pas su se dire à temps, il faut se quitter. Au grand poker des sentiments, on a trop bien triché.
C'était les traditions avec Julio Iglesias, ce célèbre chanteur espagnol qui a totalisé 80 ans d'âge dernièrement. On revient à l'actualité de cette semaine. Vital Camer a été désigné mardi 23 avril candidat de l'Union sacrée de la nation au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il a remporté l'élection primaire organisée par la majorité afin de départager trois candidats au poste du speaker de la Chambre basse du Parlement. Le président de l'UNC a rappelé 183 voix sur 372 votants, essentiellement députés de l'Union sacrée de la nation. Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime du président Joseph Kabila, avec comme concurrent Modeste Bahati, président sortant du Sénat, et Christophe Mbosso, président sortant de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso a totalisé 113 voix, alors que Modeste Bahati a été choisi par 69 députés de l'Union sacrée de la nation. 7 bulletins ont été déclarés nuls. Le candidat de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a affirmé jeudi 24 avril son engagement à redorer l'image de cette institution. Il a dit au sortir de son audience avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Kinshasa. Madame Diane Kasongo, vous êtes journaliste, vous êtes directrice des informations à la radio-télévision Nyota, émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Vous avez souhaité nous parler de ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Voilà, c'est vrai, je voulais parler de ce sujet parce que, vous le savez, Vital Kamerhe, qui est passé, hein, qui est le candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, qu'il est passé devant Mbosso et Bahati. Je voulais au fait parler de ce mystère que cache Vital Kamerhe. La victoire de Vital Kamerhe, c'est une victoire sans surprise, vu que lui-même a dit qu'il était le choix du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe connaît vraiment ce poste de président de l'Assemblée nationale pour l'avoir exercé sous Joseph Kabila, vous l'avez dit. Mais nous avons vu ce jour des élections plusieurs députés saluer ces primaires, une première pour la République démocratique du Congo. Et on nous a parlé de ce signe de mot de démocratie. Mais moi, je ne vois pas, au fait, Guimaté, ce signe de démocratie. Je vois, par contre, le mal à l'aise qui règne au sein de cette union sacrée. Et que le président Félix Tshisekedi s'est retrouvé dans cette difficulté, vraiment, de dégager une candidature commune, connaissant son regroupement, comme je dis qu'il y a un malaise. Il ne voulait pas vraiment léser certaines personnes. Et si vous voyez, chacun a apporté quelque chose à cette réalisation, au-delà de ce que nous présente cette action que l'Union sacrée nous montre que c'est la démocratie, nous avons vu cette faiblesse qui règne autour de ce regroupement politique. Et après les élections du bureau définitif, parce que, comme nous l'avions dit pour les élections des gouverneurs, Vital Kamerhe, qui est le candidat de l'Union sacrée, on n'a même pas besoin de ces élections parce que ça sera également une formalité, l'Union sacrée, à la majorité des députés.
Madame Diane
Kasongo. Vital Kamerhe, c'est ça. Oui, allô, Kimate.
Oui, vous parliez de Vital Kamerhe. Il y a une évidence, c'est donc lui qui est le choix de la majorité à l'issue, n'est-ce pas, de cette primaire qui a été organisée le mardi dernier. On sait que c'est la persistance des divergences des vues qui a poussé, n'est-ce pas, l'Union sacrée à organiser cette élection. Vous avez parlé des malaises au sein de cette plateforme politique. Maintenant, peut-on dire que cette primaire a suffi pour faire taire les contestations?
Pas du tout, je ne pense pas. Je ne pense pas, Guy Maté, que ça va taire les contestations. Il faut aller, on va voir après l'élection définitive du bureau de l'Assemblée nationale. Il faut voir après parce que on voit toujours qu'il y a des mécontents. On voit toujours qu'il y a des mécontents. Malgré les postes qu'ils auront au niveau du bureau, vous pensez que ça ne va pas non plus créer des contestations?
Merci.
Il y aura toujours des contestations, Guy Maté.
Merci. Maître Jean-Claude Katende, vous êtes membre de la société civile, vous êtes avocat et président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, ASADO. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche qui a été utilisée par l'Union sacrée pour désigner le ticket, n'est-ce pas, au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Et aussi, si la même situation de crise se constate pour les autres postes restants, est-il possible de procéder de la même manière, c'est-à-dire organiser les primaires pour les autres postes du bureau définitif?
En fait, l'union sacrée a inauguré une pratique qu'elle est appelée à pouvoir maintenir s'il y a plusieurs candidats pour les autres postes dévolus à la majorité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut que l'union sacrée continue avec la même logique. Mais je voudrais dire d'abord que il faut féliciter les trois candidats qui ont participé à cette primaire, dans la mesure où ce n'était pas un exercice facile et personne d'entre eux n'était convaincu qu'il allait pouvoir gagner. Je pense aussi qu'il faut féliciter M. Vital Kamerhe pour le fait qu'il soit élu à l'issue de ces primaires qui ont eu lieu. Mais je pense que les résultats dont vous avez parlé dégagent un message. M. Vital Kamerhe a eu moins de 50% au sein de la majorité. Il a eu moins de 50%. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il n'est même pas arrivé à mobiliser au-delà de 50% de membres de l'Union sacrée pour sa cause. Ce qui veut dire que la joie qu'il a ressenti l'appelle à ce qu'il travaille davantage pour mobiliser la majorité des membres de l'Union sacrée. Donc c'est un travail qui sera très difficile à faire, d'autant plus que tout le monde n'aura pas les mêmes intérêts par rapport à certaines questions qui vont se remarquer ou se poser au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer l'Assemblée actuelle à l'Assemblée qui avait été dirigée par M. Vital Kamerhe en
2008.
Exactement. Ce n'est pas la même majorité. Je pense que la majorité sous Kabila était très organisée, était très disciplinée et les mots d'ordre étaient vraiment suivis. Dans la majorité actuelle, comme je venais de le dire, il sera toujours difficile de faire passer les mots d'ordre parce que nous l'avons vu. M. Vital Kamerhe a eu à peu près 48% de membres de l'Union sacrée qui l'ont voté. Il n'est pas arrivé à mobiliser la majorité des membres de l'Union sacrée. Et il faut continuer à croire que M. Mbosso, même s'il n'a pas eu de place au niveau où il voulait, va continuer à exercer une force au sein de l'Assemblée nationale. Parce qu'il a eu quand même plus de 30% de membres de cette union sacrée qui lui ont donné des voix. Donc il y a un travail à faire. Mais je voudrais insister aussi sur le fait que ces primaires ont démontré que au sein de l'union sacrée, il n'y a pas une véritable coordination, il n'y a pas une véritable discipline. Nous pouvons penser que c'est de la démocratie, mais nous espérons que cette démocratie, cette pratique va pouvoir s'instaurer, se cristalliser pour les autres postes et pour l'avenir au sein de l'union sacrée. Si c'est une pratique qui est tout simplement circonstancielle pour départager les trois candidats sans une vision pour l'avenir, je pense que c'est de la peine perdue pour moi. Et j'aurais souhaité que cette pratique inspire même la prochaine loi sur les partis politiques. Si on peut arriver à instituer ces primaires au sein des partis politiques, je pense que ça va être une grande révolution en République démocratique du Congo, dans la mesure où la plupart des cas, ce sont les promoteurs des partis politiques qui prennent tous les postes au sein du parti comme à l'extérieur du parti.
J'ai posé la même question à Madame Diane Kasongo. Après cette primaire au sein de l'Union sacrée qui a abouti à la désignation de Monsieur Vital Kamerhe, peut-on dire que cela suffit pour faire taire, n'est-ce pas, les contestations au sein de cette plateforme politique?
Je ne parlerai pas des contestations, mais des divergences des vues. Et je ne pense pas que ces divergences vont pouvoir se taire à la suite de ces primaires. Elles vont devoir continuer dans la mesure où nous savons qu'au sein de ce regroupement, c'est plus les intérêts personnels qui priment que de voir l'avenir du pays, l'avenir de la coalition. Si ce n'était pas une question d'égoïsme et d'intérêt personnel, nous n'en serions pas arrivés à ces primaires. Les uns pouvaient laisser la place à quelqu'un d'autre parce que c'est au sein de l'Union sacrée, mais tout le monde s'est accroché principalement pour par égoïsme et par la défense des intérêts qui sont tout à fait personnels. Il ne faut pas oublier que le président de l'Assemblée nationale gère quand même un budget colossal. Et il y a des fonds sur lesquels le président de l'Assemblée nationale ne rend de compte à personne. Il gère cet argent de manière personnelle, ses dépenses ne sont pas justifiées, et donc c'est quand même un grand intérêt qui a fait que personne de trois ne pouvait céder la place à l'autre.
Merci.
Je ne pense pas que ce soit pour, en fait, diriger bien l'Assemblée nationale, mais les intérêts connus de tous ces trois qui ont déjà dirigé le Sénat et l'Assemblée nationale ont motivé chacun à pouvoir rester.
Merci. Merci, Madame Colette Blackman. Vous êtes journaliste au journal Le Soir. On sait que tout cela se passe alors que le président Félix Tshisekedi a entamé son second mandat. Et à votre avis, ça peut être quoi l'enjeu de cette lutte des leaderships au sein de l'Union sacrée de la nation?
Mais je crois que c'est imprimer une certaine stabilité. Je trouve que, je partage assez bien les réserves de Maître Katendi, mais je trouve que c'est une approche très intéressante, elle prend du temps, mais c'est une innovation. Et quand je vois les résultats, je me dis, impossible n'est pas congolais. Et donc, Monsieur Kamere, au moins, c'est peut-être ça qui a joué aussi, c'est un professionnel de la politique, il connaît parfaitement bien tout ce qui se passe à l'Est, il connaît tous les protagonistes, les pays voisins, des groupes armés, il connaît tout ça comme sa poche. Et je crois que le Congo a vraiment besoin d'avoir à la manœuvre un poste important, quelqu'un qui connaît aussi bien le milieu de l'Est, il le connaît peut-être mieux que le chef de l'État lui-même, parce qu'il est de là. Et je crois que ça, rien que ça, ça mérite, disons, qu'il occupe le poste qu'il a, il peut faire la différence.
Je vous pose la question de savoir c'est quoi l'enjeu selon vous, n'est-ce pas, de cette lutte des leaderships au sein de l'Union sacrée de la nation.
C'est évidemment un enjeu d'influence politique. Aussi bien M. Mbosso que M. Bahati avaient leurs fidèles et leur clientèle. Mais je crois que maintenant, aujourd'hui, pour le pays, pour l'unité du pays, pour sa cohésion, les enjeux sont tels qu'il faut donner la priorité à trouver une solution à la situation à l'Est. Et là, à mon avis, M. Kamere, qui a peut-être d'autres défauts, on peut lui reprocher des choses précédemment, mais il connaît tous les protagonistes, c'est l'homme qui peut aller à la négociation, et donc peut-être qu'étant à la tête de l'Assemblée, il aura cette carte dans sa poche et ça peut faire la différence.
Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. On va écouter la chanson de la République d'Héritier Watanabe, chanson contenue dans son nouvel album Chemin de la gloire. Et on écoute donc de la République et on revient juste après.
Le prince Yannick Zenit, Belaya de Lukeba, avec la mamie composée. Mobile à ta routine, la faute est du sort. Tout en a nos consciences, nos mentalités. Didier Robin, est-ce que n'a pas pas mon ton un baby ça qui dit? Mais il y a tout beau tout. Yo, à ta journée, quand on t'a la quina n'a des. Confesse ta maman, nos fautes étaient poils. Moi, tu n'as pas quitté. Mayo Robin, la mana baby si. Didier Géa, Abdon et Pira. Alex, Chibambu,
Radio Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essaierons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur les préparatifs des élections des gouverneurs des provinces et des sénateurs à travers la RDC. Nous avons également parlé de l'élection de Vital Kamerhe comme candidat de l'Union Sacrée au poste de président du bureau de l'Assemblée nationale. Participe à cette émission, Madame Diane Kasongo, elle est journaliste et directrice des informations à la radio-télévision Nyota, émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Maître Jean-Claude Katende, membre de la société civile, et il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, elle est journaliste au journal Le Soir. Le mercredi 24 avril 2024, cela fait exactement 34 ans que fait président Mobutu Sese Seko prononcer un discours dans lequel il annonçait la fin du mouvement populaire de la révolution impère-parti-État et l'ouverture au multipartisme. Il lançait ainsi le processus de démocratisation qui devait aboutir aux élections des députés du président de la République en août 1994, selon les chronogrammes adoptés par la Conférence nationale souveraine. Mais ce processus va engendrer une transition de 16 ans émaillée des conflits. Maître Jean-Claude Katende, vous avez souhaité nous parler de ce sujet en les formulant ainsi. 34 ans après, quel bilan peut-on dresser du processus de démocratisation de la RDC? On vous écoute.
Merci, Monsieur Guimaté, pour la parole. J'ai choisi de parler de ce sujet parce que il constitue le sujet donc une phase importante dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Et je souhaite le faire en plusieurs phases, dont la première consiste à démontrer que la décision prise par le président Mobutu à l'époque ne venait pas de sa volonté. Au vu des événements, il en découle la conclusion qu'il était contraint par certains faits à pouvoir démanteler les impère-parti-État pour lancer ainsi les multipartismes. Et le premier fait qui l'a contraint à le faire, c'est la pression de l'opposition au niveau national. En dépit du fait que l'UDPS n'était pas reconnu comme parti politique en République démocratique du Congo, l'UDPS a continué à faire pression sur le président Mobutu pour que le pays s'ouvre au multipartisme. Un autre fait important, c'est la mauvaise gouvernance en fait du pays par le système du MPR parti-État. Dans la mesure où les pays étaient dans une situation sociale et économique désastreuse, au point que les Congolais, à l'époque les Aïrois, avaient commencé à décrier les régimes du président Mobutu. Et vous allez vous rappeler que c'est à la suite de tout ça qu'il avait lancé les consultations populaires, lors desquelles il avait notamment déclaré que s'il faut changer, on va changer, s'il faut chambarder, on va chambarder. Mais n'oublions pas aussi ce qui s'est passé au niveau international, notamment à la chute du mur de Berlin, qui a en fait bouleversé le monde et qui a eu aussi un impact sur la vie politique en Afrique. Donc tous ces faits ont obligé, malgré lui, le président Mobutu à lancer, n'est-ce pas, les processus de démocratisation le 24 avril 1990, ce qui constitue en fait la deuxième phase de ce que je voudrais dire. Le président Mobutu annonce une démocratisation limitée et contrôlée par lui. Il n'entendait pas ouvrir le pays au multipartisme intégral, il voulait un multipartisme limité à deux partis politiques et totalement contrôlé par lui.
Oui, maître Jean-Claude Katende, c'est bien de rappeler l'histoire, mais aujourd'hui, 34 ans après, s'il vous est demandé de faire les bilans, de dresser les bilans, n'est-ce pas, de ces processus démocratiques, qu'est-ce que vous diriez?
En fait, si on doit faire le bilan du côté positif, nous pouvons dire que le fait que le maréchal Mobutu, à l'époque, ait pris la décision de lancer le pays sur la démocratisation, c'est un fait très, très positif. Je pense qu'il a eu le courage de le faire, ce qui a conduit aujourd'hui à tout ce que nous pouvons voir, les processus notamment de la conférence souveraine qui a abouti plus tard avec d'autres combats, notamment la marche de chrétiens sur la guerre conduite par l'AFDL, et par après nous avons les dialogues intercongolais de Sun City qui a conduit à mettre en place la nouvelle constitution. Et si le président Mobutu ne l'avait pas fait à l'époque, je ne pense pas que nous en serions arrivés là. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi retenir comme un point positif, c'est le fait que le peuple congolais s'est approprié les processus démocratiques, plus même que les hommes politiques. Nous pouvons noter aussi l'organisation des élections comme un point qui a découlé de ce que le président Mobutu avait lancé il y a 34 ans. Mais du côté négatif, nous pouvons retenir le fait qu'il y a eu beaucoup de cas de violation de droits de l'homme pendant toute cette période, dans le sens que le président Mobutu cherchait par tous les moyens à contrôler les processus, ce qui a entraîné beaucoup de cas de violation de droits de l'homme, ce qui a entraîné en fait la guerre à l'est de la République démocratique du Congo pour les chasser du pouvoir. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui découle en fait de cette guerre qui a été initiée par les Américains via les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Donc aujourd'hui, du côté négatif, nous pouvons retenir ce point-là, mais si nous regardons les choses positivement, nous pouvons nous dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est en partie dû à la décision prise par le président Mobutu à l'époque de lancer notre pays dans le processus de démocratisation. Moi, le fait le plus important, c'est cette détermination du peuple congolais à pouvoir contrôler les processus démocratiques, à s'approprier les élections et avoir le courage de parler, de critiquer les autorités du pays, en fait son combat pour participer à la gestion du pays, même si nous voyons qu'il y a, un certain nombre de blocages, il y a des atteintes aux droits de l'homme, il y a des atteintes à la liberté de la presse et beaucoup d'autres choses que nous pouvons décrier, mais l'acquis le plus important, c'est cette implication, cette détermination du Congolais à pouvoir, n'est-ce pas, s'approprier les processus de démocratisation du Congo.
Merci, Madame Diane Kasongo. Aujourd'hui, on entend de plus en plus chez certains Africains que la démocratie est un régime politique qui n'a pas permis l'épanouissement de l'Afrique parce qu'il n'était pas ou n'est pas adapté aux réalités de l'Afrique. Comment vous réagissez à cette opinion, Madame Diane Kasongo?
Je vais réagir, Guy Maté, par le positif et par le négatif. Vous savez, avec ce processus de démocratisation, le politique, le problème, c'est le politique congolais qui ne se convertit pas aux valeurs de la démocratie. Les valeurs de la démocratie qui sont celles du bonheur et du bien-être de Congolais. C'est vrai, nous avons salué ces efforts, les efforts fournis par le Congolais afin de permettre à chacun de s'exprimer librement, quel que soit le problème qu'il arrive. Ça faisait longtemps que cette liberté avait été étouffée par le président Mobutu. Il a fallu que les gens se battent pour arracher cette démocratisation, pour au finish proclamer ça officiellement. Mais aujourd'hui, nous sommes passés par les dialogues, nous sommes passés par tout pour, d'ailleurs vous l'aviez évoqué, par cette longue transition, pour discuter, arriver aujourd'hui aux élections où chacun peut avoir le pouvoir en passant démocratiquement par les élections, même si aujourd'hui les élections sont contestées. Mais on se retrouve aujourd'hui avec plus de 900 partis politiques, sans compter les regroupements. Au lieu d'avancer, j'ai l'impression que le pays enregistre du recul. Au lieu qu'on vise le but même de cette démocratisation, aujourd'hui c'est les intérêts égoïstes de tout un chacun. Aujourd'hui, nous vivons avec plusieurs partis politiques et on commence à fausser même cette démocratie qui devrait vraiment permettre à cette République démocratique de décoller comme les voulaient ceux qui se sont battus effectivement pour cette démocratie, Guy Maté.
Merci. Merci, Madame Colette Lachman. 34 ans après, vous ne pensez pas que l'État soit arrivé, n'est-ce pas, pour proposer pas la démocratie telle qu'elle est conçue par l'Occident, mais plutôt une démocratie qui tient compte, n'est-ce pas, des particularités de chaque pays. Et là, on parlerait de la démocratie congolaise, de la démocratie burundaise, guinéenne, et ainsi de suite. N'est-ce pas une façon de répondre à toute à cette opinion qui pense que la démocratie à l'occidental n'a pas permis à l'Afrique de connaître l'épanouissement?
Mais pour moi, ce n'est pas très clair quand on dit chaque pays devrait inventer sa démocratie. Je crois qu'il n'y a pas 36 solutions, ou bien c'est une démocratie et ça reflète la composition de la classe politique, reflète le vote des électeurs, ou alors on appelle les choses plus simplement, on dit c'est un régime fort, c'est une dictature. Peut-être qu'une dictature avec des coups de pied au cul, si j'ose dire, peut avoir des résultats momentanément satisfaisants, je pense à certains pays voisins. Mais sont-ils durables? Sont-ils reproductibles? Je ne sais pas. Personnellement, si je regarde ces trois décennies écoulées au Congo, il y a tout de même deux choses qui me frappent. C'est l'attachement profond des Congolais à exprimer leur voix. Ça, c'est la démocratie parlementaire. On peut l'enjoliver, on peut dire ce qu'on veut, mais les gens veulent s'exprimer et ils espèrent que leur voix sera entendue et qu'elle donnera elle sera traduite sur le plan politique. Ça, c'est une chose. Et la deuxième qui est liée à la première, c'est que contre toute attente, justement, contre les prévisions de beaucoup d'Occidentaux, je pense aux Américains, je pense aux pays voisins, l'unité du Congo a tenu, la population a clairement exprimé jusqu'à aujourd'hui à propos de la situation à l'Est, son attachement à l'unité du pays, à l'unité territoriale, au respect des frontières. Et ça peut être pris beaucoup de gens à l'extérieur par surprise, parce que le pays est vaste, compliqué, et on ne s'attendait pas à cela. Or, c'est clair, les gens ont voté pour l'unité du pays, et ils ont utilisé les voies parlementaires. Maintenant, le troisième point, est-ce que la classe politique est à la hauteur de ces espérances de la population? Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais que l'origine du problème, il faut remonter presque aux années 60, aux circonstances dans lesquelles le pays est devenu indépendant. Il y a eu l'assassinat de Lumumba, il y a eu une classe politique qui a été achetée par l'ancien colonisateur, je sais de quoi je parle, et qui est vénal. Et donc ce lien entre l'argent et la politique doit être dénoué autant que possible. Ça n'est jamais tout à fait dénoué, mais que la politique avait une occasion de s'enrichir à des niveaux insupportables, ça c'est une trahison des deux espérances populaires, la démocratie et l'unité du pays, parce que c'est en train de saper l'existence même du Congo, cette pratique énorme de la corruption. Ça c'est vraiment le troisième défi auquel il faudra répondre le plus rapidement possible.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Multipartisme d'Alpha Blondie et on revient juste après. Multipartisme avec Alpha Blondie, une chanson que le reggaeman ivoirien avait composée au début de la décennie 90, au moment où beaucoup des pays africains étaient en train d'adopter la démocratie. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Diane Kasongo, elle est journaliste et elle est directrice des informations à la radio-télévision Nyota émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Maître Jean-Claude Katende, membre de la société civile, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Les Soirs. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, a devant le Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi 24 avril dressé un tableau alarmant de la situation dans l'est de la RDC marquée par les tensions persistantes avec le Rwanda. Le responsable onusien a souligné que cette situation tendue présente un risque d'embrasement régional. Wang Xia a expliqué que les tensions entre la RDC et son voisin, le Rwanda, non seulement persistent, mais elles se sont également exacerbées avec les affrontements répétés entre le M23 et le FRDC. Pour leur part, les États-Unis d'Amérique militent pour une solution négociée à la crise de l'Est de la RDC. Deux responsables américains l'ont réaffirmé samedi 20 avril à Kinshasa au terme d'une visite d'une semaine en RDC. Et de son côté, le président français Emmanuel Macron a appelé mardi lors d'un échange téléphonique avec son homologue rwandais Paul Kagame au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, ont rapporté des médias locaux citant l'Elysée. Le président français a également invité Paul Kagame à renouer le dialogue avec le président congolais Félix Tshisekedi. Par ailleurs, la RDC accuse la société Apple, qui commercialise notamment l'iPhone et les ordinateurs Mac, d'utiliser ces produits déminérés qui proviennent des sites d'exploitation illégale. En guise d'avertissement, une mise en demeure a été adressée cette semaine à Apple par la RDC via des avocats français mandatés par le pays. Madame Colette Pacman, vous avez souhaité nous parler de ce sujet. On vous écoute.
Oui, je crois qu'on arrive tout doucement à une telle aggravation de la crise qu'elle n'est plus supportable. En effet, le monde change. Il y a deux foyers de tension importants, l'Ukraine, bien sûr, et Gaza, mais la situation à l'est du Congo est le troisième foyer. Et je crois que la communauté internationale ne peut pas soutenir cette trois foyers en même temps, et que donc celui de l'Est du Congo dure depuis trop longtemps, et que maintenant les pressions s'accentuent, et on va revenir peut-être à une solution de bon sens, et que le Rwanda doit admettre que les frontières du Congo existent, qu'elles sont intangibles, que ça relève de la charte de l'Union africaine, et que c'est comme ça. Que des réfugiés congolais à l'extérieur du pays ont le droit de rentrer, des Tutsis congolais, à condition de respecter les règles du vivre ensemble, de la citoyenneté, et de ne pas prendre les armes contre un pays dont ils se réclament, les ressortissants, et ne pas obéir aux ordres de capital étrangère. Donc ils doivent faire preuve de patriotisme et de citoyenneté s'ils veulent être acceptés dans leur pays, puisqu'ils se disent Tutsis congolais, alors ils doivent accepter les règles de leur pays. Et je constate que la communauté internationale, qui a été si longtemps relativement indifférente, si pas complice, est sensible maintenant à ce danger d'un troisième foyer de tension qui peut faire basculer, parce qu'avec sa dimension, ses ressources, sa population, si le Congo bascule, comme les pays du Sahel le font déjà, vers d'autres camps, vers d'autres alliances, alors là, c'est toute la configuration de l'Afrique qui change, et ça, je pense que l'Occident ne peut pas se le permettre. Donc, on arrive tout doucement à un point crucial où il faut une solution négociée, mais qui doit être négociée avec les impératifs des Congolais. C'est quand même eux qui ont été agressés. La situation humanitaire est dramatique. Quand on voit les images de Gaza, c'est dramatique, mais à Goma, il y a peu d'images. Mais si on voit ce qui se passe au nord Kivu, autour de Goma, la situation des déplacés, c'est aussi grave que la situation au Proche-Orient ou ailleurs. Donc il faut absolument trouver une solution humanitaire, mais surtout une solution politique à long terme, et restaurer la confiance. Il faut que les chefs d'État se parlent, même si c'est dur dans l'expression, qu'ils mettent carte sur table, et il faut des médiateurs honnêtes. Et là, je crois que la Belgique, même si pour l'instant les relations ne sont pas bonnes avec Kigali, parce que la Belgique a osé s'exprimer. La Belgique connaît l'histoire, elle connaît l'histoire des frontières, elle connaît l'histoire de ses populations déplacées, elle sait qui est congolais et qui ne l'est pas. La Belgique, elle souhaite la paix, mais à mon sens, elle devrait s'impliquer davantage encore dans la négociation, peut-être avec le soutien de la France et des Américains, qui ne peuvent pas se permettre un troisième foyer de tension sur le plan international.
Merci, Maître Jean-Claude Katende. Comment vous analysez, n'est-ce pas, toutes ces pressions que la communauté internationale est en train d'exercer à l'endroit des belligérants dans la région de Gdansk afin qu'ils essaient de trouver une solution adéquate à cette crise, mais aussi l'enlisement de ces conflits, les statu quo auxquels on assiste sur le terrain, profiterait à qui, à votre avis? Au gouvernement de la RDC ou à la rébellion du M23 avec son soutien, le Rwanda?
Merci, Guimaté, pour la question. Mais avant de vous répondre, je voudrais quand même dire un petit mot sur la question précédente. En fait, vous avez parlé de la démocratie occidentale et la démocratie africaine. Et je voudrais ici dénoncer l'hypocrisie de la classe politique africaine. Quand les opposants sont dans l'opposition, ils réclament à celui qui est au pouvoir la démocratie occidentale, les respects des droits de l'homme, les élections, ainsi de suite. Et quand elle-même, l'opposition, prend le pouvoir, elle dénonce la démocratie occidentale. Cette hypocrisie, on en a assez, et je pense que tout le monde a besoin que ses droits soient respectés, et tout le monde aussi a besoin d'avoir des dirigeants qui l'a élu. Et cela n'est pas de l'apanage seulement des Occidentaux, mais aussi de l'Africain. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous avez posée, je me demande si vraiment la communauté internationale fait des pressions sur le Rwanda. Nous savons tous que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo, et cela depuis plusieurs années. Mais l'engagement de la communauté internationale sur cette question, elle est très faible. Combien de personnes sont mortes dans cette guerre imposée par le Rwanda à notre pays? Combien le pillage de nos ressources a été grand? Et ce pillage profite à qui? À la communauté internationale, aux Occidentaux principalement. Vous avez mentionné la question des appels. Mais c'est avec raison que la République démocratique du Congo se met en guerre contre cette entreprise américaine. Qui ne sait pas que si aujourd'hui les États-Unis décident à ce que Kagame sorte de la République démocratique du Congo, ses troupes vont sortir. Mais de ce côté-là, on parle de négociations. Le Congo va négocier avec le président Kagame sur quel point? Le point qu'il soulève, c'est la protection des Tutsis. Si les Tutsis se considèrent comme Congolais, ne peuvent pas s'appuyer sur une puissance étrangère pour réclamer les droits qui leur sont garantis par la Constitution. Vous savez que depuis les partages de l'Afrique par les Occidentaux à la conférence de Berlin, il y a des populations de nos États qui se trouvent de part et d'autre. Vous avez des Congolais qui ont des liens avec les Congolais de Brazzaville. Donc, ces populations qui sont chez nous, le président Sassou Nguesso un jour va décider de venir les protéger au Congo. Vous avez la même situation avec la Zambie. Vous avez des Bemba en Zambie et des Bemba en République démocratique du Congo. Si les Bemba congolais se sentent menacés, ils vont aller recourir à la Zambie pour venir les protéger. Le vrai problème du président Kagame est que tout son développement économique est principalement basé sur l'exploitation illégale des ressources dans notre pays. C'est ça la question clé. Et moi, personnellement, je ne crois pas dans une solution politique. Il est question pour la République démocratique du Congo, pour aujourd'hui et pour demain, de se doter d'une armée dissuasive. Sans cela, on va trouver une solution aujourd'hui. Demain, le président Kagame trouvera une autre voie pour revenir dans notre pays. Tout le monde le sait. Les Américains le savent. Les Belges le savent. Et principalement les Belges, je suis convaincu qu'ils ne peuvent rien faire sans le soutien des autres États de l'Union européenne. Et ces États-là sont pro-rwandais que pro-congolais. Je pense que Madame Colette le sait très bien. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est nous, Congolais, qui devons nous organiser pour protéger notre pays. La communauté internationale a fait des pressions de complaisance. Il n'y a pas de sanctions prises contre le président Kagame, comme on le verrait dans d'autres pays.
Merci.
L'insécurité au Congo crée la prospérité du Rwanda, et tout le monde le sait.
Merci, Maître Katende. Madame Diane Kasongo, on va finir cette émission avec vous. On apprend qu'il y a des contacts en cours entre les représentants des deux camps en vue, n'est-ce pas, d'une éventuelle rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Comment vous réagissez à cette nouvelle, Madame Diane Kasongo? Allô, Madame Diane? Voilà, apparemment, elle est partie. Madame Colette Zachman, comment vous réagissez à cette nouvelle? On apprend qu'il y a des contacts en cours en vue d'une éventuelle rencontre entre les deux présidents.
Les débuts risquent d'être difficiles parce que ni l'un ni l'autre, ils se connaissent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ils ont pris la mesure l'un de l'autre et le début risque d'être assez un choc entre deux personnalités, entre entre deux conceptions du patriotisme, et mais après ils seront obligés de toute façon ils seront obligés de se parler et d'appliquer les règles du droit international, de l'intangibilité des frontières, de la souveraineté. Le Rwanda est souverain en territoire rwandais et en territoire congolais. Le sort des Tutsis congolais et de tous les autres groupes du Congo dépend de l'autorité congolaise, et comme l'a dit Maître Katende, pas d'un pays voisin, parce que sinon tout le monde peut intervenir, la Tanzanie, l'Angola, tout le monde a des intérêts au Congo. Donc c'est l'autorité congolaise qui est légitime, qui a été légitimée par les élections, qui est responsable de la sécurité de tous ceux qui se prétendent comme des citoyens congolais. Il y a tout de même quelques valeurs de base qui devront être rappelées, et que si le Rwanda veut exporter des ressources du Congo, ça peut se faire par des voies de commerce. C'est ce qui avait été convenu tout au début, lors du premier mandat du président Tshisekedi. Il y avait eu des accords économiques. Pourquoi ne peut-on pas revenir à ce point de départ? Je crois que sens devrait prévaloir, et aussi une certaine humilité du côté rwandais. Ils ne sont pas les maîtres de l'Afrique centrale, que l'on sache.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Diane Kasongo, Maître Jean-Claude Katende et Madame Colette Blackman. Merci aussi à Deb Sivita et Pierre Diassinois qui étaient à la technique, avec la participation de Christian Lomombe, DJ Daddy et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sabujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Chérie Maria de Papa Wemba, une façon pour nous de rendre hommage à cette légende de la musique congolaise dont on a commémoré le 8e anniversaire de la mort le 24 avril dernier. On écoute donc Chérie Maria et on se retrouve le samedi prochain.
Soy Dagufato y el top model.
Chérie Maria, Lela n'a comi pas tant et banaya, bona sanguine mon solo. Pobo sani le temps passé, papa si royaume aïna mon ara, bonaya. Merci Terre, chérie Maria, Lela n'a promis pas ça et Panayo Romano, on a gagné de mon solo. Au beau sani le temps passé, papa qui royaume aïna mon affi, Panayo, on lui fait tout la merci Terre. Papa poti bayo batingi ma pauvre malheureux bobo la nazanga. Elle a pani miango nazali na yango. Oh na poti kopeza na ya. Akala bako kutanga na yo lisusu na zela. Ako chabi na nga na danje. Oh,
Thank you.